Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 28e édition de la chronique des composants. Nous enregistrons aujourd'hui le jeudi 30 juin 2016. Bonjour à tous et à toutes, c'est donc Emmanuel Vendée ce soir, le frère de Guillaume qui prend la parole pour cette 28e édition de la chronique des composants.
Coup d'état, c'était un coup d'état.
Bonsoir Guillaume, docteur Guillaume.
Et oui, bonsoir à tous.
Oui, effectivement, tu vas bien ?
Oui, moi ça va très bien, hein. Je suppose que ce Guillaume-là est moins fatigué que l'autre.
Bah écoute, effectivement, il y a du 2.0 dans la petite famille de Guillaume. Hein, voilà, moi je suis tonton pour la énième fois et une nouvelle fois depuis donc la toute fin du mois dernier. Et Guillaume est dans les affres de la paternité, encore une fois. Ils sont tout heureux. Le papa et la maman vont bien et tout le monde va bien. Voilà.
Et donc, du coup, il néglige ses devoirs d'host. Hein,
Oui, un petit peu. Voilà, il m'a proposé éventuellement de reprendre le temps d'eux. Mais bon, je vais faire de mon mieux. Je ne sais pas si je suis au niveau, mais votre humble serviteur ce soir propose un petit peu le host, effectivement.
Voilà, non, puis, mais c'est ça. Mais les enfants, ça casse tout. C'est terrible.
Ah, mais oui, non, mais les enfants, c'est terrible. Donc, voilà. Et puis, bon, Guillaume, ça, il replonge, il sait à nouveau changer des couches.
Donc, ça lui avait manqué.
Ouais. Toi, c'est ton truc, toi, changer les couches, Guillaume ?
Oui, bien sûr. Ouais. J'adore ça, c'est ma grande passion.
Ah, ouais, les couches de pâte thermique, c'est ça ?
Exactement, voilà, exactement. Moi, les couches, on m'a souvent dit que je me tenais une d'ailleurs, hein, mais à part ça.
Ah, oui, non, parce que c'est sous les dissipateurs de microprocesseurs, tout ça. Ah, tu vois, ce soir, je vais faire dans la blague. J'ai décidé de faire dans la blague bien nulle ce soir. Tiens, ça va.
Le tout, c'est de le savoir, hein, maintenant tout le monde est au courant.
Très bien, eh bien, on va commencer tout de suite. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons parler des actualités. Il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière édition.
Fait un bon mois. Hein.
C'est vrai, ça date du mois dernier. Là, on est déjà à la fin juin. Alors, qu'a-t-on raté durant cette éclipse, Guillaume ? Qu'est-ce que tu as nous proposé dans les actus ?
Ben, en fait, on a raté pas mal de trucs, on va pas pouvoir revenir sur tout. Clairement, on a raté le Computex 2016, on a raté l'E-Cube. Donc, je sais pas si tu as retenu des choses, toi, de ces événements, en particulier du Computex. Je sais pas si on a. Donc, ça s'est passé à Taipei, hein, c'était du 7 du 7 ou je sais plus combien de juin, ça dure une petite semaine.
Alors, le Computex, pour ceux qui savent moins bien, enfin, moi je croyais que c'était un truc latin, Computex, Pontifex,
Pontiflex, ouais, mais Computex, ouais, bah, le Computex, c'est donc une sorte de grand-messe de la technologie qui se déroule à Taipei, à Taïwan, tous les ans. Et donc, bon, bah, les constructeurs viennent pour montrer de nouvelles machines. On a aussi parfois, à cette occasion-là, des nouveaux processeurs qui sont dévoilés. C'était le cas d'ailleurs de ARM, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, on a les nouvelles architectures des processeurs de mobile qui seront dans les machines en 2017, début 2017 normalement. Et puis, on a un petit peu tout. Alors, évidemment, c'est un petit peu hétéroclite. C'est là qu'on a présenté les premiers. Enfin, alors, il y en a eu à l'E-Cube aussi, mais on a eu les premiers les PC sac à dos, par exemple. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo pour la réalité virtuelle. Tu sais, parce que l'emmerdant quand on a la réalité virtuelle, évidemment, c'est qu'on a un casque sur les yeux et puis on a un fil qui va jusqu'à la grosse boîte, jusqu'au PC. Et donc on se passe pas les pieds dedans et ça peut être dangereux. Il n'y a pas encore une mort, mais ça ne serait tardé. Et du coup, bon, ils se sont dit comment faire pour remédier à ce problème. Bah, c'est simple, on va mettre le PC sur le dos avec une grosse batterie, comme ça on est complètement autonome. Bah, plus besoin d'avoir, donc vous avez votre casque, vous mettez votre PC sur votre dos, vous branchez au casque, et ensuite tout ça est autosuffisant pendant pas très longtemps, parce qu'en gros, PC gamer, évidemment, bah, ça fait une grosse. Ça consomme quand même pas mal. Donc, je trouvais ça assez rigolo. Bon, je trouve ça plutôt anecdotique, honnêtement, mais c'est vrai que c'est quand même toujours assez marrant.
Bah, si et ça puis... peut favoriser l'autonomie, bon voilà, c'est le début. On avait bien les premiers Walkman des années 80, on était presque avec des enregistreurs à bande sur le dos. On voit aujourd'hui ce que
c'est
ça donne.
C'est exactement ça. Et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que effectivement, aujourd'hui, bon, bah, la technologie fait que le niveau de la technologie fait qu'on est obligé d'avoir une espèce d'énorme sac à dos qui fait, je sais pas moi, 5-6 kilos, peut-être plus, peut-être 10 kilos même d'ailleurs. Brancher un autre casque, alors que je suis bien certain que d'ici 5 ans, le casque sera autosuffisant et possédera la même puissance intégrée. Et on regardera ça effectivement de manière aussi amusée qu'on regarde les premiers Walkman, ouais, tu as complètement raison.
Oui. Alors, je crois qu'aussi, il y a quelques nouveautés dans le domaine robotique aussi qui sont présentées à cette occasion du Computex.
C'est peut-être une tendance, je sais pas exactement, mais Asus a présenté le Zenbo. Alors le Zenbo, c'est un petit robot domestique qui
est zen et il est beau, c'est ça.
Exactement. mais il est zen, il est beau. Alors évidemment parce que c'est comme c'est Asus, tout est zen. C'est Asus, ils font les Zenbooks, ils font les Zenphone, ils font aussi les Zenbo. Ils sont les robots zen quoi, les robots d'Asus. Alors, il y en a qu'un pour l'instant, donc il s'appelle Zenbo, il coûtera plutôt $500, il me semble. C'est un petit robot tout mignon, avec un écran, il est sur roulette, donc il y a deux grosses roulettes, et il est capable donc de vous suivre d'une pièce à l'autre, de vous reconnaître, de vous parler, de comprendre ce que vous dites et de répondre à vos sollicitations, un petit peu comme Alexa. Je ne sais pas si tu... Tu es au courant donc de. Alors, ça, c'est Alexa, c'est Amazon Echo.
Oui.
C'est l'intelligence artificielle d'Amazon qui prend la forme d'une espèce de tube, une espèce de boîte que vous posez un petit peu où vous voulez, une espèce de boîte noire qui vous écoute en permanence et qui répond à vos sollicitations. Alors, un petit peu comme font les téléphones mobiles avec Siri, Cortana, etc.
D'accord.
Et cette fois, c'est Amazon. Et apparemment, c'est le concept du Zenbo, ça ressemble quand même pas mal à une espèce d'Alexa sur roulette, tout simplement.
D'accord, oui, effectivement, il présente quelque chose d'un petit peu orienté, un petit peu de tous les jours dans la vie familiale, un petit peu de domotique peut-être.
Oui, alors effectivement, il est capable d'interagir avec des petits éléments domotiques que vous auriez dans votre maison, il est capable de gérer votre agenda, de répondre si vous avez une question, voilà, par exemple, traduis-moi ça ou va me chercher ça sur Internet. Il est capable de prendre des photos et de servir de robot téléprésence aussi. D'ailleurs, il est capable de donner l'alerte. Alors, il y a une longue vidéo de présentation du Zenbo, si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est assez rigolo, mais honnêtement, je ne suis pas certain que ça déchaîne les passions plus que ça, parce que finalement, il y a beaucoup de... Enfin, la plupart, hein, des services qui sont donnés par Zenbo, ils sont aussi donnés par les téléphones mobiles, tout simplement.
Et oui.
Bientôt par les intelligences artificielles de Google et d'Amazon, donc, puisque Google a présenté un concurrent à Amazon Echo au dernier Google I.O. On n'en a pas parlé parce que bon, ça fait longtemps effectivement qu'on n'a pas fait de podcast, mais bon, on aurait pu en parler. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça ressemble plus à un gadget qu'autre chose. Mais c'est peut-être une tendance, parce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, là, aujourd'hui même, que Sony travaillait sur des robots de compagnie. Alors il faut savoir que Sony, il est coutumier du fait, hein, puisque il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, pour les moins jeunes d'entre nous, Sony avait présenté ses Aibo il y a
une
bonne quinzaine d'années, hein, peut-être plus. Il y a eu 3 générations d'Aibo, il me semble, qui ont été toujours plus sophistiquées. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont des pièces de collection, hein, si vous en trouvez un sur un vide-grenier, prenez-le tout de suite. Ce sont des chiens robots qui, à l'époque, étaient plutôt évolués, ils étaient complètement autonomes.
Des chiens robots, hein, c'est ça. Oui,
des chiens robots, d'accord. Tout à fait. Et ils étaient capables donc de jouer à la balle, vous pouvez leur lancer une balle, ils allaient la chercher, ils avaient leur os particulier, et puis ils avaient un petit comportement qui mimait voilà, celui d'un chien. C'était très rigolo, c'était très en avance pour son temps, c'était relativement cher et ils en ont vendu très peu. Ça a été un énorme, enfin, ça a été vraiment un gros échec.
Un gros bite, quoi, on peut le dire. Comme mes blagues.
Vraiment... Ouais. Et attends, t'en as pas encore fait assez pour qu'on puisse. on t'attend. Non, mais tu vois, voilà, c'est vraiment. Bon, ils ont essayé, ils se sont un peu viandés, ils ont arrêté donc. Alors, ça fait, je sais pas, ça fait au moins 5 ans qu'ils ont arrêté. Et là, apparemment, ils sont en train de réfléchir justement à faire un petit robot ménager, mais pas un robot ménager qui fait la cuisine.
Un truc robot pour faire la maillot ou malaxer la pâte à pain.
Exactement, avec des bras mécaniques. C'est un peu compliqué. Hein, non, c'est vraiment un truc, voilà, c'est vraiment des robots de compagnie, on va dire, qui pourraient être soit comme des Aibo, soit un truc un petit peu plus évolué à la Wall-E. Apparemment, Wall-E à la côte, puisque,
Oui. D'ailleurs, il y a un
à ne pas
petit.
penser. Hein. Oui,
Il
vas-y.
y a un petit look, je trouve, entre le Wall-E et un petit look, comment dire, qui se rapproche, quoi, une petite ressemblance entre le Wall-E et effectivement le Zenbo. Mais on sent bien la volonté d'avoir une sorte d'animal de compagnie, mais intelligent, en fait. Un petit peu comme on imagine le petit chien qui rapporterait le journal le matin, mais ben là c'est vraiment ça, le petit compagnon pour les tâches de tous les jours, mais à qui on va pas confier quelque chose de dégradant, mais la petite aide, voilà.
Quelque chose de
Ouais, non,
dégradant.
parce que
Ça viendra, ça viendra, ça viendra. T'inquiète pas.
c'est vrai
Les
que
robots de compagnie
ça...
spécifiques, ça viendra très vite.
Quand je dis dégradant, je pense toujours à ces vidéos incroyables, d'ailleurs le nom m'échappe, où on a donc le robot qui fait des tâches de manutention, et puis on lui supprime la caisse au moment où il veut la prendre, ou alors on lui met un grand
C'est de
coup
la
de
maltraitance.
voilà, on lui met un grand coup de genou pour voir si ça va le déséquilibrer quand il marche, et puis il dit rien, bien sûr, le robot, et donc
Pour l'instant, il n'y a rien, mais il n'en pense pas moins.
Attention, les machines veillent.
Alors, pour finir justement avec cette espèce de petit machin en robot, là, petit moment en robot, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, et donc pour montrer effectivement que c'est un peu dans l'air du temps, un tout petit robot, mais cette fois il est vraiment tout petit, puisqu'il doit faire 10 cm sur 10. Il a un look vraiment bah voilà, c'est marqué dans l'annonce dans l'article de Engadget, c'est vraiment une sorte de petit personnage Pixar, mais en réel. Donc c'est un petit robot en plastique qui a un petit écran qui permet d'afficher des yeux, et ses yeux expriment énormément d'émotions, et il est vraiment adorable. Il est beaucoup, beaucoup plus sophistiqué qu'on pourrait le croire. Il s'appelle, donc c'est un petit robot qui s'appelle Cosmo. Il est fait par Anki, qui est une start-up qui projette de le vendre bientôt, donc en octobre, pour la modique somme de 180 $. Ce qui peut paraître cher pour un jouet, mais il ne faut pas oublier que Anki, enfin que Cosmo, est quand même vraiment beaucoup plus évolué que, par exemple, le Sphero, tu sais, le BB-8, le BB-8 qui marche comme un vrai, là, avec sa
Ah
boule.
oui,
Voilà,
tout à fait.
il est quand même vendu 150 $,
Tout
et
à fait.
on peut pas dire que ce soit quelque chose d'intelligent, quoi. Là, vous avez un petit robot qui est extraordinairement mignon et qui est autonome, c'est-à-dire qu'il a ses propres réactions et tout. Et voilà, enfin, moi je trouve que c'est assez marrant, c'est vraiment une sorte de jouet de luxe. Ça préfigure peut-être ce que seront les jouets à l'avenir d'ailleurs. Et donc vous pouvez aller voir Cosmo, Cosmo, c'est
Très
de
bien.
Anki,
On
Anki.
mettra ça dans la.
On mettra ça dans les liens.
Voilà, tout à fait. Ok. Et alors quoi d'autre sur le
Est-ce que
sur.
tu je sais pas, est-ce que tu as vu l'E-Cube? Est-ce que tu as un peu de dire deux mots de l'E-Cube aussi, puisque ça fait longtemps qu'on ne connaît pas.
Alors, l'E-Tube, c'est donc
L'E-Cube, c'est donc le salon de jeux vidéo qui
voilà,
a
le
eu Las
salon du
Vegas
jeu
il y a pas
vidéo.
longtemps.
Ça s'adresse aux gamers. Moi, je suis un petit peu moins gamer, mais quand même,
Ah ouais, bah écoute.
c'est les technos qui m'épatent. Ouais. Le rendu,
Mais
le
justement,
visuel,
ouais.
c'est mon truc, ouais.
Et justement, en fait. On peut pas en parler tant que ça, parce que d'une part c'est pas trop le propos, et puis il n'y a pas eu vraiment de présentation de nouveau hardware. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, moi j'attendais la NX, mais bon, on savait qu'elle allait pas être présentée, mais c'est vrai que avant cette annonce, moi je pensais qu'elle allait présenter Valicube, j'étais très très déçu. Donc tant pis, ma foi, bon, que voulez-vous.
Peut-être pour une autre fois, ou alors ils ont voulu se réserver pour une messe plus spécifique dédiée, non? Je sais pas.
Écoute, quand est-ce que sera. Alors, peut-être au TGS, c'est au Tokyo Game Show, en septembre.
D'accord.
En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sortira en mars 2017, qu'elle aura bien des jeux sur support physique, ce sera pas une console totalement dématérialisée, et il y a quelques indices supplémentaires qui plaideraient pour le retour au support cartouche de Nintendo NX. On en a déjà parlé ici, donc pourquoi pas, à suivre. Enfin, en tout cas, je suis très très curieux, moi, sur la NX. Et bon, pour compléter rapidement, la seule machine nouvelle qui était présentée entre guillemets à l'E-Cube, c'était l'Xbox Scorpio,
D'accord.
qui est
Comme le parfum.
Exactement.
Il date un peu ce parfum. Non, c'est franchement, c'est nul. Je vais faire mieux comme blague.
En plus, c'est toujours nul. Et donc, bon, quoi, la Scorpio, c'est quoi? C'est une console Xbox One qui sera beaucoup plus puissante que la Xbox One, mais qui sera quand même totalement compatible avec la Xbox One. Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant sur le papier. Ce qui m'a beaucoup fait rigoler, en fait, c'est qu'ils ont vendu la Xbox One, enfin, la Xbox One Scorpio, hein, ils l'ont vendu sur la puissance de calcul qu'ils ont expérimenté en teraflop et la possibilité de faire des jeux en 4K. Alors, tu me diras, c'est vrai que ça devrait parler aux techies qu'ils connaissent, tu vois, aux espèces de technophiles qu'ils connaissent. Et en réalité, je ne suis pas tout à fait certain, parce que, déjà, je pense que bon, dire qu'elle a 6 teraflop de puissance, bon, c'est bien. Ça permet d'avoir une idée de combien de pixels on va pouvoir envoyer, et effectivement, la 4K me semble tout à fait possible. Mais enfin, c'est vrai que vendre ça au grand public, ça va pas être facile. Et ce qui m'a surtout étonné, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune image. Tu vois, il n'y a pas de avant-après. Tu vois, enfin, je veux dire, quand tu veux vendre une nouvelle machine qui est plus puissante que l'ancienne, tu dis, bah, avant, vous aviez ça, c'était bien, maintenant vous avez ça, ça déchire la gueule. Tu vois, un truc comme ça. Et en fait, là, non. Alors, du coup, je sais pas. C'est vendre sur des teraflops et sur la 4K. En plus, bon, ils ont carrément dit que si vous n'aviez pas télé 4K, c'était pas la peine d'acheter une Scorpio. Donc, c'est pas si tu veux pas vendre ta machine, faut le dire tout de suite, quoi. On l'achète pas. C'est bizarre. Je sais pas trop comment ils vont marketer ça. Bon, alors, parce que ça concernera de toute façon le commerce que la période des vacances 2017, donc fin 2017. On a encore le temps de voir quand même. Oui. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'au niveau marketing, j'ai un peu de mal à cerner ce qu'ils veulent faire avec la Scorpio, pour être tout à fait honnête.
Ah bon, faut espérer que c'est pas. Ouais. Voilà. Que c'est pas juste comme ça une annonce pour dire on fait la suite, mais que ça n'apporte rien finalement de.
Mais c'est vraiment en termes marketing que je me pose la question. Quoi, tu vois, c'est-à-dire, ils disent que ce sera les mêmes jeux, mais en 4K. Bon, alors, c'est un peu léger peut-être, tu vois, pour vendre
tout
une
à fait,
machine.
Oui. Et puis après, effectivement, il faut avoir le rendu, la télé. Bon, enfin, tu me diras, maintenant, ça se démocratise aussi, la 4K, hein, dans les salons de monsieur et madame tout le monde. On commence à voir pas mal d'écrans. Ça devient quand même un peu plus abordable que ça n'était.
Oui, tout à fait.
Ok, donc ça, c'était l'aspect game. Alors, de quoi d'autre peux-tu nous parler en termes de nouvelles techno concernant les puissances de calcul?
Bah écoute, puisqu'on est dans la partie actu, là effectivement on a carrément une grosse actu, je sais, qui a été relayée un petit peu partout d'ailleurs. C'est le nouveau plus puissant super ordinateur du monde, donc c'est-à-dire le nouveau top. Et alors le nouveau top, c'est-à-dire l'ordinateur le plus puissant du monde, aujourd'hui il est chinois.
Ah.
Il s'appelle Taolite. Alors, c'est chinois. Bon, ouais. Je suis désolé. Et du coup, il prend la tête avec pas moins de 93 pétaflops de calcul. Alors, ça, c'est beaucoup. Ça fait des pétaflops, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Puisque, effectivement, on a les teraflops et puis après, on a les pétaflops.
Les pétaflops, c'est 10 puissance 15, c'est ça, non, davantage?
Voilà. Bah, c'est 1000 teraflops.
Ouais, d'accord.
Pétaflop.
Si je me trompe.
Teraflop étant 1000 gigaflops.
Si je me trompe, pour donner une idée, il connaît rien aux grandeurs. Celui-là,
non, mais pour donner une idée, en fait, bon, voilà, un ordinateur de base, quoi, ça fonctionne à quelques gigahertz, et les processeurs qui sont dedans, ils donnent quelques gigaflops. Voilà, gigaflops.
D'accord.
Donc des milliards d'instructions en virgule flottante par seconde, de calcul en virgule flottante par seconde. Alors, pourquoi en virgule flottante? Parce qu'en général, c'est plus compliqué, c'est plus long à faire que des calculs sur les entiers, et puis c'est très utilisé en calcul scientifique, c'est pour ça qu'on prend le flop comme unité. Donc un ordinateur standard, c'est quelques gigaflops, jusqu'à 10 gigaflops, peut-être plus, mais bon, voilà, c'est dans ces eaux-là. Si vous prenez des cartes spécialisées, par contre, là, on obtient des trucs vraiment très impressionnants. Par exemple, on parlait de la Xbox Scorpio, dont la puissance correspond à celle d'une carte très haut de gamme aujourd'hui, une carte graphique très haut de gamme aujourd'hui. Et donc, une carte graphique très haut de gamme, elle est capable de donner quelques teraflops, de l'ordre de quelques teraflops, donc 1000 fois mieux.
Voilà, c'est 1000, teraflop, c'est 1000 gigaflops.
C'est 1000 gigaflops. Et donc, les super ordinateurs, les ordinateurs qui sont faits pour faire des gros calculs scientifiques, eux, ils ont des puissances qui sont de l'ordre du pétaflop, c'est-à-dire 1000 fois encore plus.
Pétaflop, ça fait tout péter. Bon,
ça fait tout péter, exactement. Et c'est ça. Et en l'occurrence, Taolite, donc, c'est 93 pétaflops. sur un benchmark de calcul. Alors, c'est un LINPACK, donc c'est un calcul d'algèbre linéaire. Et c'est devenu le champion. Et il écrase quand même, parce qu'il est quand même trois fois plus puissant que Tian 2, qui était l'ancien champion et qui était aussi chinois. Alors, ce qui est le plus intéressant avec ce super ordinateur, c'est que non seulement il était en Chine, mais il était fabriqué par des Chinois, il était fabriqué par des Chinois avec des processeurs chinois. Il n'y a aucun processeur Intel, ni AMD, ni quoi que ce soit à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est un ordinateur qui est 100% fait en Chine. Processeurs, d'ailleurs, c'est des Shenwei.
Oui.
Qui ont, c'est des Shenwei pour être complètement 26010. Ce sont des processeurs qui sont 260 cœurs, 64 bits.
Oh là là, d'accord.
Ce sont des risques.
Ouais. Et on les trouve dans d'autres machines, je pense, parce que comme c'est une marque dont on n'entend pas parler, par exemple, comme évidemment Intel ou AMD, on les trouve
pas ailleurs qu'en Chine. Non, pas ailleurs
qu'en Chine, d'accord.
C'est des trucs qui sont purement chinois. Alors, il y avait des Shenwei avant, hein, ce n'est pas les premiers Shenwei. Il y avait d'autres processeurs de marque Shenwei, ils en font depuis quelques temps. Et celui-ci, donc, c'est le plus puissant. Chaque Shenwei, il aligne 3 teraflops. De puissance, c'est-à-dire que c'est à peu près la même chose qu'un Xeon Phi, c'est-à-dire que les processeurs massivement parallèles spécialisés d'Intel. J'avais parlé des Xeon Phi à plusieurs reprises dans le podcast, ce sont des espèces de grosses cartes graphiques, mais vraiment dédiées pour le calcul, pour simplifier. Et donc voilà, on a des processeurs qui sont donc à peu près au niveau de la concurrence, hein, voire même qui l'excède. Et dans un gros ordinateur, donc dans ce Tayou Lite, il y a 40 960 Shenwei. Voilà. Et chaque nœud a 32 gigaoctets de RAM. Donc il y a environ 10 millions de cœurs dans cet ordinateur, ce qui explique sa puissance absolument démentielle. Quoi.
Ouais, c'est... Comme je dis toujours à chaque fois, c'est la science-fiction. Et pourtant, c'est vraiment ça, c'est la réalité aujourd'hui. Quoi.
Et alors, c'est marrant pour les Chinois, c'est moins marrant pour les Américains, c'est quand on prend le top 10, c'est-à-dire les 10 ordinateurs les plus puissants du monde actuellement, on a donc le Tayou Lite en premier, on a le Tian 2 en deuxième, qui est aussi un super ordinateur chinois, qui est à Guangzhou. Il a 3,12 millions de cœurs, hein, pour donner une idée. Et après, en troisième seulement, on a le Titan, qui est un Cray XK7, et qui, lui, est à Oak Ridge, c'est-à-dire c'est un ordinateur américain, qui aligne, lui, 17 pétaflops. Plus 17 pétaflops. Ouais, ensuite, on a Sequoia,
petit joueur.
K-Computer, on a Mira, Trinity, et en fait, alors je suis en train de regarder quel est le premier... je vais y arriver. Alors, on a un japonais en cinquième, le K-Computer. C'est un système Spark 64 avec 705 000 cores. Qui est donc au Japon, et on a le premier, j'allais dire le premier européen, enfin c'est les Suisses, hein, c'est Pisdaint, qui, alors Pisdaint c'est probablement du suisse allemand, je sais pas, qui est un Cray XC30, et qui est donc au Swiss National Computing Center en Suisse. Voilà, et ensuite on a un ordinateur à Stuttgart.
Ok.
Voilà. Et le dixième, c'est ça, c'est assez intéressant aussi, c'est un Cray XC40, le Shaheen 2, qui est à l'université de King Abdullah, en Arabie Saoudite.
Ok. Alors moi,
donc c'est marrant quand même. Hein.
J'ai une petite question, parce que bon, on parle de... Moi, je suis très poète, hein, j'ai des grandes références, Verlaine, George Sand, Bernard Ménez, et donc je me dis, tous ces cœurs, tous ces mignons petits cœurs... Bon, ça peut inspirer l'amour, mais on en fait quoi? Je veux dire, ces ordinateurs, aujourd'hui, ils permettent de calculer quoi? À l'époque, moi, je me souviens, les premiers Cray, on disait, oui, ben, ça permet de calculer des modèles météorologiques.
Bah, toujours, hein, toujours.
D'accord,
toujours.
C'est essentiellement d'ailleurs, bah, ce genre de...
En fait, par exemple, le Tayou Lite, les Chinois disent clairement que c'est pour calculer des modèles météorologiques, géologiques, tu sais, des modèles sismiques, des trucs comme ça. Bon, évidemment, les Américains sont un petit peu plus inquiets parce qu'ils imaginent que ça va servir à faire des calculs sur pour modéliser des armements, tu vois, enfin faire des calculs un petit peu moins innocents que ça.
D'accord.
On n'en sait rien, personnellement, j'en sais rien en tout cas. Mais effectivement, les calculs, disons, trouver des calculs à faire, c'est pas très compliqué en fait. Hein. Il suffit de modéliser un phénomène un petit peu complexe. Et en fait, les phénomènes complexes, presque tous les phénomènes sont complexes. C'est, ouais. Alors, il faut se dire. C'est qu'on a l'impression que la science, elle sait tout calculer. En fait, c'est presque vrai. C'est-à-dire que on sait tout calculer, mais pas exactement. C'est-à-dire que quand on a un problème, en général, Si le problème a, enfin, si la solution du problème c'est une fonction simple ou une combinaison de fonctions simples qu'on peut écrire, ça s'appelle un cas d'école. C'est-à-dire, c'est un truc, voilà, c'est un cas bien connu, tout ça. Mais tous les autres, ben, en fait, on ne sait pas, on ne peut pas donner des équations, enfin, on ne peut pas donner des fonctions simples qui les décrivent. Il faut calculer, il faut approximer les solutions de notre problème, et il faut les approximer en faisant souvent de très 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 gros calculs, ben, parce que justement, ça prend énormément de temps. Bon, par exemple, si on prend ben, un truc classique, hein, on prend un avion, et on veut calculer exactement comment se comporte l'air quand il passe sur l'avion, quand il est à haute vitesse. Ou comment l'air se comporte quand il passe dans la turbine du réacteur, par exemple. Alors ça, ben, c'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué ? Parce que ce n'est pas des phénomènes qui sont stables. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas beaucoup de vent, ben, ça va être très simple. Le comportement va être très simple. Il faut même écrire, en général, les solutions à la main. Et dès que ça commence à aller un petit peu plus vite, ben, ça part en couille. Et comme ça part en couille, vous devrez faire plus de calculs, avoir des grilles plus fines, être plus précis. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, il faudra être encore plus précis. Le problème, c'est que très souvent, la précision qui est demandée, eh bien, elle n'est pas proportionnelle à la précision du résultat que vous obtenez. Et dans certains cas, des phénomènes qui peuvent être chaotiques ou turbulents demandent des précisions, en fait, demandent énormément de calculs pour avoir des précisions qui ne sont pas forcément en rapport, en fait, avec le truc.
Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en plus, comme tu dis, à l'origine, en fait, les équations qui régissent ces phénomènes-là, là, bon, effectivement, tu parles des écoulements turbulents qu'on retrouve dans la mécanique des fluides, ce sont des équations qui sont relativement simples à écrire. Je veux dire, elles tiennent en quelques symboles mathématiques sur une ligne. On retrouve ça aussi dans l'électromagnétisme avec les équations de Maxwell, par exemple, qui décrivent le comportement des champs électromagnétiques et des champs magnétiques. C'est des équations relativement simples. Par contre, dès qu'on se place dans des cas de solutions réelles de tous les jours, les solutions sont extrêmement difficiles à calculer. Et on est obligé, effectivement, de se placer dans des cas très particuliers, des cas hyper simples, et faire en sorte d'avoir en réalité des modèles qui permettent d'avoir des approximations, c'est-à-dire des domaines où l'équation est valable, mais on arrive à avoir des solutions simples pour justement modéliser le phénomène.
D'ailleurs, un exemple qui est vraiment, alors je suppose que tu connais bien sûr, hein, c'est l'exemple le plus simple c'est un exemple historique, on va dire, de théorie du chaos qui illustre un petit peu ça, c'est la mécanique céleste, c'est-à-dire que les équations de Newton, qui sont, comme tu le dis, très simples, permettent de résoudre de manière explicite, parfaitement connue, quand il y a deux corps, quand il y a une étoile, une planète, par exemple, ou même deux planètes, en fait, quand il y a deux corps, on a des solutions explicites qui sont relativement simples et parfaitement maîtrisées. Dès que vous rajoutez un troisième corps, on peut montrer, il a été montré, qu'il n'y en avait pas, en fait, que hors certains cas ultra particuliers, en général, quand vous avez trois corps, il est impossible d'écrire de manière simple les solutions générales. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous avez ce genre de problème ? Ben, en fait, vous suivez pas à pas ce que peut faire le corps en fonction, par exemple, le troisième corps, en fonction de la position des autres. Et vous êtes obligé de suivre comme ça, pas à pas. Et effectivement, comme je disais, typiquement le problème à trois corps, c'est des problèmes qui ne sont pas stables, qui peuvent partir en couille, comme je dis, très très facilement, c'est-à-dire amener à des solutions ultra compliquées très très rapidement, ou des solutions qui divergent assez, assez vite, et donc il faut faire très 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 attention. Et quand vous avez un super ordinateur, vous pouvez quand même essayer de faire ça à l'échelle du système solaire, par exemple, et de voir si le système solaire est stable ou non, en modélisant et en suivant les corps de manière ultra précise pendant très longtemps. Vous avez une idée, en fait, des trajectoires, et vous pouvez savoir si ça va partir en Y totalement ou pas trop, à une certaine échelle de temps. Donc ça fait partie de ces problèmes-là, mais évidemment, ils ne sont pas uniques. Il y a énormément de problèmes comme ça qui sont extrêmement compliqués très vite.
Oui, C'est vrai. Comme quoi, de la simplicité, on est dans la complexité la plus infâme dans les solutions. Bon, ceci étant, si vous passez votre, je pense à tous les étudiants, les gens qui viennent de passer leur bac, les lycéens, ils doivent se dire, mais c'est pas possible, on sort déjà de la physique et des mathématiques et ils nous rabâchent encore les oreilles avec des équations. Non, nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté concret des applications des équations. Mais enfin, si vous passez votre oral de physique et que vous dites, là, la solution, ça part en couille, vaut mieux que vous disiez, le résultat va être turbulent.
C'est une autre manière de le dire, tu sais.
Très bien. Et donc, revenons à des considérations plus, plus informatiques, plus composantiques. Tu parlais tout à l'heure de ARM et tu disais que tu allais y revenir.
Oui, c'est vrai, mais en fait, avant, je vais peut-être parler, puisqu'on est dans les trucs où il y a plein de cœurs, là, on parle des supercalculateurs avec des milliers de cœurs, tout ça, j'ai vu passer un truc assez marrant pour montrer effectivement qu'il y a une course comme ça à la puissance assez improbable. Il y a des ingénieurs à l'Université de Californie, à Davis, qui ont produit, donc qui ont fabriqué le premier processeur qui a 1000 cœurs. Le premier kilocore, tu sais, on avait les quadricœurs, les octocœurs, tout ça. Là, c'est un kilocore, il y a carrément 1000 cœurs.
Ah oui,
carrément. Ça fait. Il n'est pas si gros que ça, le pire, hein. C'est ça qui est fabuleux, c'est qu'ils ont gravé ça en 32 nanomètres, il n'y a que 621 millions de transistors. Bon, c'est-à-dire que globalement, il n'y a pas plus de transistors que dans un dual core moderne. C'est assez étonnant. Puisqu'on dépasse le milliard maintenant, hein, sur les processeurs vraiment, vraiment, vraiment puissants, vraiment costauds. Du coup, on peut se poser un petit peu la question, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?
On a l'impression que c'est de la triche. Ils ont mis moins de transistors et puis...
Les cœurs sont très très simples. Des cœurs très très simples. Alors, l'architecture du truc est vraiment spéciale. C'est-à-dire que... il y en a beaucoup qui pourraient me dire, oui, mais les gros GPU, les grosses cartes graphiques modernes, ça dépend de comment tu les regardes, elles ont déjà plus de 1000 cœurs. Et c'est vrai, en fait, hein, c'est-à-dire que les cartes graphiques ont une architecture un petit peu particulière qui fait qu'elles peuvent opérer sur plus de 1000 opérations simultanément, quoi, par cycle d'horloge. Alors, la différence, c'est que finalement, si on regarde ce cœur-là, ce chip kilocore, ce qu'on voit, c'est pas vraiment un processeur, mais c'est plutôt une espèce de réseau entier qui aurait 1000 ordinateurs indépendants qui parlent entre eux à travers un réseau, donc le réseau qui est sur la puce, et qui peuvent exécuter chacun un programme totalement différent, avec leur propre espace mémoire. Ça change pas mal, en fait, des GPU, parce que les GPU sont habitués à exécuter le même code, mais sur plein de données différentes.
Ah, oui.
Alors que ce truc-là est capable d'exécuter plein de programmes différents sur plein de données différentes. Du coup, il est aussi capable de faire des choses que les GPU pourraient plus difficilement faire, et de les faire, ou en tout cas les faire de manière beaucoup plus efficace. C'est un processeur qui a beaucoup de cœurs, mais qui est très très économe. La fréquence d'horloge n'est pas énorme, hein, c'est 1,78 GHz, mais chaque cœur est indépendant, et il peut même s'arrêter totalement s'il n'est pas utilisé.
Ah oui.
Donc, ce qui fait que c'est quand même très efficace, oui.
Il y a une optimisation de la conso, justement, il ne réveille les cœurs que s'il y a besoin, quoi.
Ouais, et on est quand même à 115 milliards d'instructions par seconde pour 0,7 watts, ce qui est très impressionnant.
Ah oui, oui, oui.
Alors après, par contre, bien entendu, hein, faut pas croire que... Parce que voilà, il y a toujours un mais. C'est-à-dire, quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs, beaucoup, beaucoup d'unités de calcul, c'est super. Mais, il faut bien les alimenter. Et donc, forcément, y a énormément de données qui circulent. C'est-à-dire que, comme vous avez des petits cœurs, ces petits cœurs, ils ont des petits espaces mémoire qui sont attenants, et donc vous allez devoir envoyer les données sur lesquelles ils doivent travailler à chacun des cœurs, comme sur un réseau Ethernet,
ouais.
Et ensuite, les données vont être rapatriées et envoyées à la mémoire centrale pour avoir les résultats. Donc forcément, il va risquer d'y avoir des embouteillages, en admettant que vous envoyez tout ça d'un coup, il risque d'y avoir de gros embouteillages. Donc il faut vraiment bien en optimiser, programmer de manière très particulière ces puces pour pouvoir en tirer le meilleur, quoi. Bon, pour l'instant, d'ailleurs, cette version ne sera pas commercialisée, mais il n'est pas impossible que, disons, les versions 2 atteignent les étals des bonnes crèmeries.
Ah, ok.
C'est possible.
Bon, la bonne, je dirais, la prochaine fois que j'achète du fromage ou des œufs, je demande à. Vous auriez pas 1000 petits cœurs pour moi.
1000 petits cœurs, c'est pas mignon.
Ah oui, c'est ma fromagère qui va être contente.
Ouais. C'est pas ta fromagère.
Très bien, 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 bien. Donc ARM, j'y reviens. Alors,
Oui, parce que bon, on peut pas ne pas. Hein, c'est donc ARM, ARM, c'est donc le designer. C'est pas le constructeur parce qu'ils sont faiblesses, hein, ils ont pas d'usine, mais c'est celui qui conçoit les processeurs, les systèmes sur puce qui sont dans l'immense majorité des téléphones mobiles, ouais. Des tablettes d'aujourd'hui, des consoles de jeux aussi d'ailleurs. Donc c'est un constructeur extrêmement important, et vu le marché de la mobilité, c'est un concurrent très important d'Intel. Donc à chaque fois effectivement qu'il y a une nouvelle architecture, bah, cette architecture se retrouvera dans vos téléphones mobiles l'année d'après. Et donc c'est toujours utile d'avoir une petite idée de ce qu'il y a dedans. Quoi,
oui.
Même si ça peut être un petit peu technique, évidemment. Alors, bon, on va peut-être faire un petit récapitulatif, parce que c'est vrai qu'ils ont une nomenclature qui peut donner un petit peu la migraine.
Un petit historique, parce qu'effectivement, les numérotations de puces,
ouais, donc on va essayer
comprend,
de,
ça doit être ouais. ARM, mais alors la suite
Alors, ARM, ils ont la ligne Cortex, qu'ils ont depuis 5-6 ans maintenant. Alors Cortex, donc c'est le Cortex A8 pour donner une idée, c'est le processeur qu'il y avait dans le premier iPad. Le Cortex A9, c'est celui qu'il y avait dans le deuxième iPad. Oui, je pourrais continuer comme ça, mais en fait pas tout à fait. C'est pour donner une idée. Hein. Donc le Cortex A9, ça a été un énorme succès. C'est probablement ça a été vraiment un gros changement. Après le Cortex A9, on a eu le Cortex A15. Qu'on avait par exemple dans la Nexus 10, il me semble, dans la tablette Nexus 10, okay. Et dans des téléphones mobiles comme le Huawei Mate 7, je crois, d'ailleurs aussi. Alors, c'est un processeur qui a apporté pas mal de puissance parce que il était plus rapide que le Cortex A9, hein, mais il était connu au moins au début pour consommer pas mal. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu un succès aussi incroyable que le Cortex A9, parce qu'il avait la tendance à chauffer pas mal. Donc du coup, il faut savoir qu'après le Cortex A15, Apple a fait cavalier seul et a sorti ses propres puces, ses propres processeurs, architectures de processeurs. C'était les Cyclone, je crois, et donc c'était les Apple A7, si je me souviens bien. Et dans les A7, donc, on avait... les A7. Dans les A7, on avait, tu vois,
c'est l'influence.
Pure solidarité, c'est pure solidarité. Bon, ouais. Donc, dans les Apple A7, on avait les premiers processeurs 64 bits mobiles ARM du monde, il me semble. Et ces processeurs-là, évidemment, ils étaient extrêmement puissants, ils ont eu beaucoup de succès et ça a suscité l'émulation, on va dire. Donc, du coup, à partir de là, donc c'était il n'y a pas très longtemps, hein, puisque c'était dans l'iPad Air, je crois. Oui. Donc à partir de là, effectivement, tout le monde a voulu faire du 64 bits, même dans les téléphones, ce qui est plutôt contestable comme volonté.
Oui,
et donc, évidemment, ARM n'y est pas coupé, hein, ils ont sorti leur Cortex A57, qui était leur première architecture en 64 bits. Pour être tout à fait honnête, je pense que les Cortex A57 ne laisseront pas forcément énormément de... Enfin, voilà, ils sont... qui ne resteront pas dans la mémoire. On s'en souvient quand même comme d'une période où les processeurs des portables ou les mobiles n'étaient pas vraiment nécessairement beaucoup plus rapides que la génération d'avant. Même qu'ils étaient 64 bits, ça n'a changé rien. Pour une raison très simple, c'est que bien entendu, le 64 bits, ça sert strictement à rien sur un mobile. Les optimisations architecturales du A57 n'étaient pas suffisantes. Et le pire, c'est que c'était un processeur assez gros, assez large, qui consommait pas mal. Et c'est à cette époque qu'ARM a commencé à promouvoir beaucoup plus l'architecture Big Little, c'est-à-dire la possibilité d'avoir 2x4 cœurs, 4 cœurs puissants pour les tâches lourdes, et 4 cœurs moins puissants, mais beaucoup plus économes pour les tâches légères, comme par exemple écouter de la musique ou des podcasts. Très important d'écouter des podcasts.
Ouais, carrément.
Et,
activité alors, principale à mener avec son smartphone.
Écouter des podcasts, surtout. Hein. Et donc, effectivement, comme ARM a aussi des lignes de milieu de gamme, on avait des Cortex A53, A57 qu'on couplait comme ça pour essayer d'économiser un petit peu. Alors, évidemment, ils ne sont pas restés là. Et l'année dernière, on a eu les Cortex A72, qui sont donc une révision du A57. Donc toujours des processeurs 64 bits, beaucoup plus optimisés au niveau, beaucoup mieux optimisés au niveau énergétique, qui se retrouvent actuellement, bah, par exemple le Huawei Mate 8, par exemple, est basé sur Cortex A72. D'ailleurs, c'est une excellente remarque. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Je ne sais plus.
Alors, j'avais une question qui me venait. Effectivement, tu disais que les 64 bits, ça servait à rien sur les smartphones. C'est vrai que bon, moi, dans mon idée, 64 bits, je me dis, bah, c'est pour adresser plus de mémoire, éventuellement faire des calculs en plus haute précision ou de plus grande profondeur. Est-ce que ça s'arrête là d'avoir 64 bits ou bien il y a aussi d'autres possibilités? Et pourquoi tu dis que finalement, c'est pas très utile sur un smartphone, par exemple?
Bon, sur un 64 bits, ça sert strictement à rien, mais ça, c'est clair. Enfin, de toute façon, ça sert déjà pas forcément à grand-chose sur un ordinateur de grande taille. Enfin, soyons clairs, le 64 bits, quand on dit 64 bits, on parle de la taille des registres, et en particulier la taille des registres de données, donc c'est là-dessus qu'on fait les calculs. Donc faire des calculs sur 64 bits, c'est utile quand on n'a pas assez de 32 bits pour stocker les données. Donc par exemple, quand on veut manipuler des nombres très très grands, ou si on est un petit peu masochiste, si on veut faire de la précision point fixe, on peut faire ça aussi sur 32 ou sur 64 bits. Mais bon, ce sont des scénarios d'usage qui sont relativement rares par rapport au reste. C'est-à-dire que souvent, 32 bits, ça suffit, en fait. Donc, ça apporte pas grand-chose. Après, au niveau de l'adressage, comme tu disais, effectivement, si on a des registres d'adresse, donc des 64 lignes d'adresse, oui, ça permet d'adresser plus de 4 gigaoctets de mémoire. C'est principalement ce qui a été le grand point pour vendre les processeurs 64 bits sur les PC, puisque effectivement les processeurs 32 bits sous Windows, en tout cas, n'arrivaient pas à gérer plus de 3 gigaoctets de mémoire, alors qu'en théorie ils peuvent aller jusqu'à 4, mais enfin, pas forcément aller plus loin que ça, mais donc oui, c'était 3 gigaoctets de mémoire, et grâce aux 64 bits, l'adressage s'étendait pour aller largement au-delà, en fait, puisque bon, on peut adresser depuis 64 octets, c'est-à-dire un nombre absolument démentiel de mémoire.
Ouais. Oui, parce que là, par contre, en puissance, donc c'est pas une simple multiplication, hein. c'est exponentiel, comme on dit.
Exactement. Donc bon, donc du coup, on voit très bien que clairement, là, dans un téléphone, où à l'époque, en plus, ça a été introduit 2 gigaoctets, c'était bien, on n'avait pas besoin de 64 bits. D'autant plus qu'on n'a pas besoin de processeur 64 bits pour adresser plus de 4 gigaoctets de mémoire. C'est complètement parce qu'en fait, sur un processeur, on peut très bien avoir plus de lignes d'adresse. On peut avoir un espace d'adressage qui est plus grand que la taille des registres de données. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Donc sur les processeurs Intel, par exemple, on avait le mécanisme du PAE, qui s'appelle, donc ça veut dire Physical Address Extension, qui permet d'avoir plus de données d'adresse que les 32 bits qu'utilisait le processeur. Et donc ça veut dire qu'on pouvait déjà, sur les trucs professionnels, on pouvait déjà adresser via ce système plus de 4 gigaoctets de mémoire. D'accord. D'ailleurs, si on se souvient des processeurs 8 bits, hein, pour avoir un exemple encore plus simple, si on prend le processeur 8 bits, on prend un Z80 par exemple, c'est un ordinateur c'est un processeur qui travaille sur 8 bits, donc il travaille sur des nombres qui vont de 0 à 256, sauf qu'il adresse un espace d'adressage, donc il adresse une quantité de mémoire maximale qui est sur 16 bits. C'est-à-dire que les adresses sont écrites sur 16 bits alors que les données sont écrites sur 8. Donc, parce qu'on imagine très bien qu'un processeur qui adresse seulement 8 bits, il pourrait avoir des programmes qui sont que de 256 instructions. Voilà, ouais. Ce qui est ridicule, ouais. En fait. Donc, on est obligé.
C'est pas 256 lignes, hein. C'est parce que dans une ligne, il peut y en avoir pas mal d'instructions. Donc là, c'est...
Exactement. Donc là, on est vraiment complètement, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop limitatif. Du coup, les processeurs même, dès les processeurs 8 bits, on a eu des espaces d'adressage, donc des adresses qui étaient sur plus de 8 bits, et en l'occurrence sur 16 bits, alors que les mots de données étaient sur 8. Donc ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Tout ça pour dire, je me suis peut-être un peu perdu, mais bon, tout ça pour dire que les 64 bits, ça ne sert à grand chose.
Alors, je vais poser une question encore plus embêtante. Et je me dis toujours pourquoi on a fait, donc on passe de 32 bits à 64 bits, bon, mais déjà de passer de 32 bits à 33 bits, par exemple, ça pourrait tout multiplier par deux. Alors pourquoi on ne fait pas des architectures à 40 bits, par exemple?
Non, mais en fait, plus ou moins, on le fait. C'est-à-dire que comment dire, l'espace d'adressage, il n'est pas forcément de 64 bits sur tous les processeurs, parce que ça ne sert à rien. Pour adresser la mémoire, ça se passe sur les pattes du processeur, carrément. C'est-à-dire que quand vous avez un microprocesseur, si mon processeur est 8 bits, on va revenir à 8 et 16 bits, voilà, c'est très simple.
En plus, tu
vous
aimes
avez
bien
votre...
ces domaines.
Ouais, j'aime bien, bah oui, c'est mon dada. Donc vous avez un petit Z80, bah, si il travaille sur des données de 8 bits, vous avez 8 petites pattes d'un côté qui vont recevoir les signaux, les 0 et les 1, qui codent pour les données sur lesquelles, c'est-à-dire les nombres sur lesquels il va travailler. Bon. Et comment est-ce que et quel est ce nombre-là? Ben ce nombre, il va être sélectionné en mémoire. Donc ce nombre, il va venir de la mémoire, et donc il va falloir sélectionner une case mémoire. La sélection de cette case mémoire, elle est faite par 16 petites papattes de l'autre côté. On a 16 petites papattes qui vont sélectionner quelle est l'adresse mémoire de la donnée à adresser, donc sur laquelle travailler. Tu vois? Okay. Donc ça veut dire qu'on doit avoir autant de pattes que d'espace d'adressage qu'on veut. C'est-à-dire, tu vois, si on veut avoir 2 puissance 16 cases mémoire, donc 64 kilo-octets, ben, il faut 16 pattes.
Oui, d'accord.
Donc, si on pense à 64 bits, le processeur 64 bits, il va travailler sur des données, alors ça dépend des processeurs, mais c'est vrai qu'un processeur 64 bits, il travaille sur des données de 64 bits, mais il va forcément avoir 64 pattes sur lesquelles il va recevoir les données. Mais est-ce que c'est forcément la peine d'avoir 64 pattes pour sélectionner les données, alors que, de toute façon, en général, il n'en utilisera jamais plus de 35 ou 40 tonnes, au très très grand maximum, quoi. Donc, ça économiserait beaucoup de métal, tout simplement, de virer quelque chose comme 24 pattes qui ne serviront jamais à rien.
Oui, parce qu'il y a toutes les pistes, il n'y a pas que les pattes, quoi.
Voilà, donc en fait, alors évidemment, ça dépend des processeurs, parce qu'il y a des processeurs qui... de toute façon, si tu veux, ce sont des choses qui ne sont pas forcément reliées, quoi. C'est-à-dire que un processeur ARM 64 bits, il peut en théorie adresser 2 puissance 64 cases mémoire. En pratique, il ne le fait jamais, et en pratique, il ne peut pas forcément le faire, tu vois. Bon, toujours est-il que sur les processeurs 64 bits de ARM qui sont sortis à cette époque-là, il y a aussi eu des nouveaux, enfin, comment dire, quelques changements architecturaux qui font qu'il y a quand même eu des petites améliorations, tu vois. Mais c'est des améliorations qui sont dues à l'architecture, aux optimisations architecturales, mais pas au fait que le processeur a 64 bits. Okay. En tout cas, pas sur les mobiles. Ça n'a pas d'intérêt. Oui,
très bien. Bon, mais c'est... très intéressant ce petit tour sur les papattes, j'aime bien ça.
D'ailleurs, je dis ah oui, alors bon, parce qu'il
faut tomber sur nos papattes.
Il faut tomber sur nos papattes avec le cortex, quoi. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que un cortex A17, donc le cortex A17, c'est un processeur de ARM qui est 8 bits, hein, qui est 32 bits, ouais. Qui est 32 bits, et c'est un processeur qui est sorti, hein, c'est un processeur d'entrée de gamme en fait, tout simplement, qui quelque part succède au Cortex A9 pour l'entrée de gamme. Donc c'est un processeur qui est 32 bits, et bien, il surclasse le Cortex A63, le Cortex A53 qui est 64 bits.
Il surclasse en termes de capacité.
En termes de vitesse, par mégahertz. C'est-à-dire la vitesse par mégahertz du Cortex A17, elle est excellente par rapport au Cortex A53, qui est aussi un processeur d'entrée de gamme, hein, cela dit.
D'accord.
Mais les Cortex A57 sont au-dessus, par
contre. Ok, donc voilà. 64 bits dans les smartphones, c'est du flan, voilà, tout simplement.
Voilà, bon, mais non, de toute façon, tout le monde en a, donc une question, tu vois, mais c'est pas vraiment quelque chose qui était nécessaire. C'était vraiment plus un coup de pub qu'autre chose. Okay. C'était pas quelque chose qui était absolument nécessaire pour faire évoluer les machines, pour les rendre plus rapides, quoi. Bon, enfin... Bon, toujours est-il qu'ils ont sorti, ils ont présenté, ARM a présenté les Cortex A73, qui donc, évidemment, succède au A72. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un processeur français. Parce que c'est
une fabrication française.
Qui a été designé, effectivement, conçu par l'équipe de Sophia Antipolis. Donc, ARM a des bureaux à Sophia Antipolis, près de Nice. Et ce sont eux qui ont conçu le A17, dont je viens de parler justement, okay. Et qui vient de concevoir le A73. À la différence du A72 qui a lui été conçu par une autre équipe, je ne sais plus laquelle c'est d'ailleurs, mais bon, enfin, donc par une autre équipe. Voilà. Donc, si on regarde qu'est-ce qui se passe, alors le A72, donc le vieux processeur de l'an dernier, hein, c'est vieux maintenant, c'est un processeur qui donc était assez large, okay. Capable d'exécuter, de décoder en tout cas trois instructions par cycle. Et c'est un processeur qui était relativement profond avec un pipeline de plus de 15 étapes. Donc c'était quand même un gros machin. Et le problème, c'est que bon, l'équipe de Sofian Tsipolis s'est dit bon, on pourrait essayer de faire encore plus large, encore plus gros, plus proche des PC de bureau. Mais ce qu'on va plutôt faire, c'est essayer de capitaliser sur le fait qu'on puisse faire un petit peu moins de choses, mais un petit peu plus vite. Et utiliser le fait qu'on va être gravé avec, on va être miniaturisé, c'est-à-dire on va bénéficier d'une finesse de gravure supérieure pour rattraper un petit peu le coup. Et du coup, on a un Cortex 73 qui est moins profond, donc qui écourte par exemple les étapes de décodage,
d'accord.
Qui est capable de décoder moins d'instructions, seulement deux, mais qui le fait plus vite. Et en tout cas, dans la majeure partie des cas. Donc on a aussi des arbitrages sur le fait que les unités de calcul entières, il y en a deux au lieu d'une, même s'il y a des restrictions, mais on peut essayer, ça peut essayer d'aller un petit peu plus vite à cause de ça. Et donc ce qui va se passer finalement, c'est qu'on a un processeur qui fait un petit peu moins de choses, mais qui le fait de manière un petit peu plus efficace et qui essaie d'utiliser au mieux toutes les unités qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les unités entières, les unités néon, les unités de génération d'adresses, etc. Alors pour le coup, c'est pas idiot parce que ça permet d'essayer d'avoir un processeur très 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 efficace au niveau énergétique. Plus que d'avoir un processeur ultra puissant au mépris de tout le reste, quoi, tu vois. Donc c'était un petit peu le focus. Du coup, ils abandonnent aussi quelques fonctionnalités qui étaient utilisées uniquement dans les serveurs. Il y a très très peu de serveurs sous ARM de toute façon, et pour se concentrer uniquement sur la cible des consommateurs, quoi, des consommateurs de téléphone. Et du coup, il y a quand même pas mal d'améliorations aussi dans d'autres unités, comme par exemple la prédiction des branchements. Il y a aussi un petit peu plus de cache, il me semble, qui c'est quand même relativement intéressant. Après, il y a pas mal de choses qui sont, les unités de calcul vectoriel sont les mêmes, etc. Donc on a quand même beaucoup de choses qui sont complètement, qui sont un petit peu les mêmes. Alors, au niveau de l'énergie, c'est-à-dire pour le même truc, hein, pour le même... On consomme 20% d'énergie en moins en moyenne par rapport à un Cortex A72 pour le même travail. Et tout aussi important, peut-être même encore plus important, c'est un cœur qui est tout petit. Alors évidemment, hein, c'est un cœur qui sera tout petit s'il est gravé en 10 nanomètres, mais ce sera le cas. C'est-à-dire qu'en 2015, on avait les Cortex A57 gravés à 20 nanomètres. Cette année, on a des cœurs gravés à 16 nanomètres, les cœurs A72. Ce qui représentait déjà une réduction de 46%, c'était déjà beaucoup, relativement plus petit. Et en 2017, comme on aura du 10 nanomètres, on aura un cœur qui sera 70% plus petit qu'un cœur de 2015, mais physiquement.
Ah, ça devient minuscule, et évidemment on imagine bien que plus c'est petit, moins ça consomme en fait.
Plus c'est petit, moins ça consomme, et puis moins ça coûte cher à produire. Et parce que plus les cœurs sont petits, au plus on peut en caser sur un wafer, et du coup, au moins c'est cher. Donc c'est quand même c'est quand même relativement sympa aussi pour le consommateur, et même pour les consommateurs d'entrée de gamme. Tout simplement parce qu'on peut imaginer, par exemple, au lieu d'avoir des quadricœurs, par exemple, on peut imaginer d'avoir des double cœurs A72 qui seront tout petits.
D'accord.
Ils seront même plus petits que des A73. Voilà.
Ok. Eh bien, on va. Moi qui aime les gens, enfin qui suis moi-même quelqu'un au grand cœur, je me dis, mais c'est complètement has-been. Tout se miniaturise. Enfin, tu me diras maintenant, ça va dans le sens de plus avoir des ordinateurs sac à dos, quoi, tout simplement. On voit bien que tout ira dans le minuscule.
Tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que les. Du coup, on pourra. Enfin, le truc, c'est que les Cortex M12 seront quand même de très très bons processeurs et ils pourront être aussi peu chers finalement que des Cortex A53. Les Cortex A53, c'est ce qu'on retrouve actuellement dans des téléphones à 200 $, quoi. Et donc, ça veut dire que si on peut avoir pour le même prix des A72 en double cœur, bah, c'est toujours bon à prendre, tout simplement. Et donc, bah alors, dans le sillage des processeurs, évidemment, ARM a aussi présenté ses nouvelles cartes graphiques, hein, ses nouvelles puces graphiques. Alors bon, je vais aller un petit peu plus rapidement parce que c'est vrai que là, c'est. Enfin, remarque, ça dépend hein, si ça t'intéresse ou pas.
Donc, moi j'aime bien.
Mali, c'est la ligne de cartes graphiques d'ARM. C'est Mali, machin truc. Alors, il y a eu les Mali 700, les 800, tout ça. Là, c'est le prochain s'appelle BG71. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils les appellent par des trucs de la mythologie scandinave. Ah. Donc, au début, tu avais Utgard, l'architecture Utgard. Après, tu as eu l'architecture Midgard, c'est l'architecture actuelle en fait. Hein. Ouais. Et là, tu vas avoir l'architecture Bifrost. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas regardé Thor, c'est le chemin en arc-en-ciel qui mène au Valhalla et qui relie d'ailleurs, je crois. C'est-à-dire, ça relie tout, non c'est, ça va juste au Valhalla ou ça relie tout, alors, tous les mondes, tu sais
Le Valhalla, moi, je suis pas très fan, enfin, pas au contraire, je suis assez fan, mais je suis pas très connaisseur de la finesse des. La mythologie viking.
Il faut dire que Thor a fait beaucoup pour la propagation de la mythologie scandinave. Voilà. C'est beau. Bifrost quoi. Alors Bifrost. Bifrost.
Alors Bifrost. Soyons gel.
Et deux fois. Ce qui est intéressant finalement dans ce truc là, c'est que bon, globalement, on l'aura un peu compris, les téléphones mobiles suivent les évolutions qu'il y a eu dans les composantes d'ordinateurs avec à peu près 10 ans de retard. Puisqu'on a le passage aux 64 bits que j'ai dit. Dont j'ai parlé il y a pas très longtemps là, justement, bah, ce passage il s'est fait avec l'Atom 64 une bonne dizaine d'années avant, il me semble à peu
c'est
près
vrai, ouais.
Ça. Et du coup, boum, là sur les processeurs graphiques portables, on commence à avoir de l'OpenCL, on commence à avoir des compatibilités un petit peu intéressantes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que Bifrost fait la transition une transition qui est analogue à celle qu'a fait AMD. Il y a en 2011. Donc en fait, finalement, je suis assez méchant parce que c'était il y a que 5 ans, tu vois. C'est les Graphics Core Next où il a un petit peu laissé tomber son architecture. Alors attention, je sors le mot. Là. Son architecture VLIW. VLIW. Ah, oui. Alors, qu'est-ce que c'est une architecture VLIW ? VLIW, ça veut dire Very Long Instruction Word.
D'accord.
Ça en jette tout de suite. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, mais alors, c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué, mais donc, dans une carte graphique, il y a plein de cœurs.
Accrochez-vous, on rentre au cœur du cœur des cœurs.
Cœur des cœurs. Alors, pourquoi il y a plein de cœurs graphiques dans une carte graphique ? Parce qu'il y a plein de pixels sur votre écran et que chaque pixel, globalement, bah, il fait un truc tout seul dans son coin, et donc c'est extrêmement bien parallélisable. Et donc, au plus vous faites de cœur, au plus vous avez un débit en pixels important, et donc au plus vous allez vite. Donc, c'est super. Du coup, la question se pose de savoir comment vous architecturez ces cœurs. Alors, souvent, on les architecture en blocs, et dans ces blocs, on a des unités fonctionnelles, on a des machins qui font, des petites unités qui font les calculs vraiment, quoi, et elles travaillent ensemble, comme ça, par blocs. Donc ces blocs, quand vous envoyez du travail dessus, évidemment, bah, il faut essayer de faire en sorte qu'elles soient utilisées le mieux possible, ces unités. Donc la manière dont vous allez architecturer, à ordonner le travail à faire pour l'envoyer au bloc, elle va être importante. Alors elle va être d'autant plus importante que les blocs ne savent pas sélectionner tout seuls, ne savent pas décider tout seuls de ce qui est le mieux pour eux. Tu vois ce que je veux dire ?
Il faut un chef d'orchestre, un petit peu.
Il faut un chef d'orchestre, exactement. Et ce chef d'orchestre, avec le VLIW, ben, c'est le compilateur. Parce qu'en fait, d'où ça vient le VLIW, le Very Long Instruction Word, c'est qu'en fait, au lieu d'envoyer une instruction à une petite unité, vous allez envoyer des blocs d'instructions, des mots longs, des mots même très longs, des Very Long Instruction Word. Donc ce sont des mots d'instructions très longs qui, en fait, contiennent une séquence d'instructions à exécuter, complète, et qui sera exécutée telle qu'elle par le bloc d'unité qui est un peu débile et qui fait ce qu'on lui dit sans trop réfléchir, quoi.
D'accord. Alors, on n'est plus à instruction par instruction, on est paquet d'instructions par gros paquet.
On a des paquets. Alors, pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que, du coup, le boulot d'organiser correctement le travail des unités, c'est le compilateur. C'est le compilateur du shader, en l'occurrence, qui doit le faire. Donc, ça déporte la complexité de savoir comment optimiser le travail sur le compilateur plutôt que sur la puce. Donc, ça permet de faire des puces qui sont plus simples. Et donc, ce qu'on économise en complexité sur la puce, on peut justement, ça fait des transistors en moins qui peuvent être utilisés pour justement mettre encore plus d'unités, etc. Donc, on a une unité un peu bêtasse, mais on en a beaucoup. Et le boulot revient au compilateur et évidemment au développeur, parce qu'évidemment, le développeur, au plus il optimise, au mieux c'est. Donc, ça, c'était le VLIW, donc c'est Very Long Instruction Word. Mais c'est évidemment, c'est jamais parfait, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours des unités qui se tournent un peu les pouces parce que, dans certaines parties du programme, vous n'utilisez pas, par exemple, les 4 unités qui sont disponibles, vous n'utilisez que 2, et puis, il n'y a pas moyen de faire mieux. Voilà. Donc, ça, c'est un constat qui s'est imposé, qui devient de plus en plus important parce que sur les cartes graphiques, on fait de plus en plus de calculs qui sont non graphiques et qui, du coup, peuvent n'impliquer que, par exemple, une ou deux composantes sur les cartes disponibles, et on ne peut pas faire autrement. Du coup, on a changé de paradigme et on est passé à des unités qui sont, au lieu d'avoir un parallélisme, c'est-à-dire on exécute simultanément les instructions, donc c'est un parallélisme d'instructions, on va passer à un parallélisme de thread, c'est-à-dire un parallélisme de fil d'instructions. Exactement comme sur un ordinateur, comme sur votre PC, vous allez envoyer des threads, c'est-à-dire des tâches, des petites tâches, assez légères, et vous allez les envoyer sur des unités qui vont travailler sur cette tâche, et puis c'est tout. Voilà. Donc, au lieu que le bloc exécute 4 instructions simultanément, il va exécuter 4 threads, mais d'une seule instruction. Voilà, c'est comme si vous preniez votre schéma, vous avez vos 4 instructions, vous le tournez de 90 degrés et vous avez ce qu'il faut en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des blocs de 4, vous avez 4 blocs de 1.
Ok.
Voilà. Et donc cette idée, elle est quand même assez intéressante parce qu'elle permet d'avoir une meilleure utilisation en général, en tout cas pour certains travaux, vous avez une meilleure utilisation des ressources. Donc ce truc-là, c'est ce qui est arrivé à AMD, c'est ce qui vient d'arriver à Mali, donc à l'architecture d'ARM. Bifrost est devenu, est passé à un système de thread où on a des quads. Alors, pour le coup, quand je dis 4 unités, les blocs de 4 unités, ça c'est pour Bifrost, mais c'est pas forcément vrai pour toutes les cartes graphiques. Il y a des cartes graphiques qui ont des blocs qui sont plus gros que ça. En général, d'ailleurs, c'est plus gros que ça. Mais sur les petites machines, c'est mieux d'avoir des blocs qui sont un petit peu plus petits. Donc voilà, donc on a ce changement-là. On a aussi une meilleure utilisation, on a aussi la possibilité tout simplement d'utiliser les registres internes pour travailler à la fois sur des entiers et sur des flottants. Alors là encore, c'est assez intéressant pour faire des tâches autres que le graphique, tout simplement. Par exemple, les calculs entiers sont utiles quand tu simules des réseaux de neurones qui se prêtent plutôt bien à la parallélisation sur les GPU. Mm-hmm. Donc voilà, donc on a aussi un plus grand registre une plus grande espace de registre, donc on a plus de mémoire interne, si tu veux. Et puis, il y a aussi un truc assez rigolo, c'est qu'ils sont capables de, quand tu as des blocs comme ça, des instructions comme ça qu'il faut arbitrer, si tu veux, il faut dire, celle-là, elle va dans telle unité, celle-là, elle va dans telle autre unité parce qu'elle est pas occupée, etc. Donc ça, c'est du travail de dispatcher, quoi. Et évidemment, ce travail de dispatcher, il intervient à toutes les instructions. Donc ça fait un petit overhead, c'est-à-dire ça fait un petit travail supplémentaire. Et Bifrost est capable, en fait, de grouper, si possible, de regarder un petit peu en amont, de grouper des blocs d'instructions qui peuvent être exécutés sur des mêmes unités. Oui. Et il fait finalement le dispatching que quand c'est nécessaire. Donc ça permet de limiter un petit peu le travail supplémentaire à faire. D'accord. Il fait ce qu'il appelle des clauses. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Et puis on pourra aussi mentionner que, alors les connaisseurs le savent, Mali rend les scènes de manière hiérarchique, c'est-à-dire que la scène est divisée en petits morceaux, en petits carrés en fait, et chacun de ces petits carrés est rendu de manière indépendante. Ça permet d'utiliser moins de mémoire. D'accord. Je m'explique. Quand vous devez rendre une scène à l'écran, vous avez une représentation de la scène en mémoire de ce qui va être affiché sur l'écran. Donc vous devez, donc chaque fois que vous calculez un pixel, voilà, vous devez tout simplement l'envoyer dans la mémoire vidéo qui représente la scène, le frame buffer. D'accord. Alors, le truc, c'est que la manière dont fait Mali, c'est qu'on prend des petits carrés, et ce petit carré, on travaille dessus, tout ce dont on a besoin pour calculer les choses qu'il y a dans ce petit carré, on le met dans une mémoire qui est sur la puce, qui est très rapide, on fait le calcul dessus, après, on affiche le petit carré, puis on passe au petit carré suivant. Okay. Ce rendu par petit carré, il s'avère plutôt efficace, et surtout pour quand on a des ressources en mémoire limitées ou de la bande passante mémoire qui est assez limitée. Et du coup, ce truc-là a aussi été amélioré. En particulier, la carte est capable très très tôt de virer les triangles qui sont trop petits pour être vus. Ça permet d'économiser pas mal de trucs et ça permet d'aller encore plus vite.
J'ai une question qui est peut-être un peu novice, hein, mais au niveau donc de ce rendu visuel, quand tu dis qu'on arrive à découper donc on va dire toute la scène avec ces petits carrés et que finalement le traitement de chaque petite surface est indépendant, comment on sait quand même les petites surfaces, elles appartiennent à des objets. Enfin, si j'ai par exemple une sphère qui est devant un cube à la jonction, si dans mon petit carré il y a à la fois un bout de sphère et un bout de cube, comment le petit carré sait que il faut tel courbure de la sphère, j'en suis peut-être à des rendus visuels d'un autre âge, hein, sur les cartes.
Mais le truc, c'est que comment tu représentes ta sphère et ton cube.
Ce sont toutes des données géométriques à l'origine, et puis ensuite on a la notion de l'ensemble de l'objet, et puis finalement le mapping, le rendu. Moi j'ai la connaissance du rendu final qui est envoyé vers la carte graphique,
mais ce que je veux te dire, c'est que juste que ce que tu appelles une sphère, du point de vue de la carte graphique, c'est juste une liste de triangles, c'est tout.
Ah oui, d'accord.
Et en fait,
d'accord,
tous les objets sont des listes de triangles. C'est des listes de triangles avec des données sur lesquelles, par exemple, une sphère, si elle est rouge par exemple. Donc tu as une sphère rouge, c'est une liste de triangles. Pour chacun des sommets de ces triangles, la carte graphique sait qu'il faut exécuter tel programme et que tel programme va lui dire de quelle couleur est ce sommet. Et une fois qu'elle aura calculé la couleur du sommet, elle va remplir le triangle, si tu veux, et chacun des pixels qui sont à l'intérieur de ce triangle, on va calculer sa couleur en utilisant un autre petit programme que la carte graphique sait, et la carte graphique sait où c'est. Donc en fait, il ne faut pas... Quand je dis que la carte graphique, elle divise en petits carrés, que dans ces petits carrés, elle regarde quel triangle il y a, c'est tout simplement parce que pour la carte graphique, il n'y a pas d'objet. Il n'y a que des triangles et des programmes à exécuter sur chacun des vertex, sur chacun des pixels.
D'accord.
Donc, quand tu dis la sphère intersecte donc un petit carré, en fait, c'est pas toute la sphère, c'est une certaine partie des triangles. Alors, tu as raison, il y a des triangles qui peuvent très bien être sur plusieurs petits carrés à la fois. Ça, c'est possible. D'accord. Et dans ce cas-là, ils devront être traités séparément, et donc ce triangle-là sera traité en plusieurs fois, tu vois. Mais les triangles qui sont dans un petit carré et pas dans un autre sont oubliés, en quelque sorte. Okay. Tu vois, donc quand on passe d'un petit carré à un autre.
Je vois. Oui. Donc, c'est dans une étape qui est davantage proche du rendu, en fait. Hein,
on est très très bas niveau, ouais. Là on est vraiment très très bas niveau, ouais, ça c'est sûr. Hein.
Ok.
Donc voilà. Deux petits mots encore pour dire que la carte graphique Mali sera la plupart du temps augmenté d'une puce qui lui permettra de décoder la vidéo, parce que ça c'est très important aussi, hein, si les téléphones sont capables de décoder les vidéos en 4K ou en 1080p, même de manière aussi fluide, c'est parce qu'ils sont aidés, hein, les processeurs centraux sont aidés par des puces spécialisées. Mm-hmm. En l'occurrence, les puces actuelles sont les V550, mais les prochaines puces seront les EGIL, qui vont améliorer pas mal de trucs, alors en particulier le codage et le décodage du H265 sera pris en charge, donc pour la 4K ou même pour le 1080p. D'accord. De manière bien plus intéressante. Et surtout, ce qui est assez rigolo, enfin ce qui est assez remarquable, c'est que EGIL va permettre d'encoder et de décoder le VP9 en hardware. Alors, qu'est-ce que c'est que le VP9? C'est un codec, donc c'est un algorithme de compression de la vidéo qui est concurrent du H265, qui est donc le codec qu'on appelle aussi HEVC, et qui est le codec qui permet à l'heure actuelle de coder les Blu-ray 4K et certaines vidéos sur Internet en très haute résolution. Alors pourquoi VP9 ? Ben parce que c'est open source, parce que c'est un codec complètement ouvert, ce que n'est pas du tout HEVC, hein, qui est un codec à licence. Et donc le choix du VP9 est intéressant parce que c'est pas très très utilisé sur Internet pour l'instant, sauf chez Google, qui a acheté et ouvert le standard, et qui est utilisé donc sur YouTube. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire que ce soit très très utilisé, donc c'est assez remarquable de voir que ARM parie sur le VP9 en carrément en proposant le transcodage en hard, quoi. C'est assez rigolo.
Nativement en fait, hein. D'accord.
Voilà, nativement, effectivement. Et ce, jusque... c'est marrant parce que même les processeurs comme ça, qui sont très spécialisés, ils sont scalable, c'est-à-dire on peut en mettre plusieurs si vous en avez des plus gros besoins. Par exemple, avec un seul cœur, tu peux faire du 1080p, mais si tu veux aller jusqu'à la 4K 3D 120Hz, il va falloir aller jusqu'à 6 cœurs quand même.
Ah oui, ouais, rien que ça.
Mais c'est intéressant parce que tout simplement, les configurations à un seul cœur, ça sera les téléphones mobiles, plutôt entrée de gamme. Deux cœurs, ça sera les téléphones mobiles haut de gamme, et après, ce sera plutôt les télévisions. Parce que les téléviseurs pourraient être équipés de ce genre de trucs pour décoder des flux de très très hautes, avec énormément de données, quoi, des flux très très hauts.
Et puis là, c'est pareil, plus on rajoute, plus on va avoir de consommation. Maintenant, ceci étant, ça consomme peut-être pas des tonnes non plus.
Mais ça consomme que la dalle, hein, parce que c'est des trucs qui sont spécialisés en fait tout ce qui est spécialisé en général, c'est très efficace au niveau des économies d'énergie.
Très bien. Donc on a fait le tour pour ARM.
Oui, là on a fait le tour pour ARM. Voilà.
Alors tu souhaitais aussi nous parler d'un serpent à plumes ? Non, je.
Non, mais c'était pour. Je ne sais pas si tu as vu cette nouvelle tendance qui a l'air assez intéressante de mon point de vue, c'est-à-dire qu'on passe, on change de topologie réseau, ça te parle ?
Ah, la topologie, topologie algébrique plutôt, mais topologie des réseaux.
C'est pas mal, donc qu'est-ce que c'est la topologie réseau ? C'est la structure du réseau. Alors je crois que... Si vous nous écoutez, vous avez certainement une box chez vous, et cette box, c'est forcément un routeur aussi, ou c'est presque certainement un routeur aussi. Et ce routeur, il vous fait très certainement du Wi-Fi dans toute la maison. Et donc la topologie du réseau, elle est très simple. C'est-à-dire vous avez un point d'accès, vous y connectez, et puis c'est tout. Bon.
C'est très simple.
Jusque-là, c'est très simple. Donc si vous êtes près du routeur, vous avez une bonne connexion. Si vous êtes loin du routeur dans la cuisine, vous avez une connexion de merde. Comment faire pour avoir une meilleure connexion ? Vous prenez un routeur plus puissant qui crache plus. Bon, ou bien vous prenez un extender. Donc ça, tout le monde connaît, hein, à la FNAC, vous pouvez prendre un petit extender, c'est-à-dire un petit machin qu'on branche, qui se connecte à votre réseau et qui en génère un autre plus fort, qui vous permet et qui relaie en fait les informations du premier réseau. Donc ça vous permet de vous connecter dans votre cuisine à votre réseau par l'intermédiaire de notre réseau Wi-Fi.
La box qui est dans le salon, par exemple.
Voilà, c'est ça. C'est une c'est un relais Wi-Fi. Donc, je pense qu'il y a
un répéteur.
Ça. Voilà. C'est un répéteur Wi-Fi, voilà. Mais alors, le répéteur Wi-Fi, ce qui est bizarre, c'est que finalement, il prend votre réseau, il capte votre réseau, et il en crée un nouveau. Et donc, vous devez vous connecter à un nouveau réseau. Et ça, c'est emmerdant, un petit peu. Et puis, en plus, si vous en avez plusieurs, si vous avez une grande maison et que vous mettez plusieurs répéteurs, ça donne vite la pagaille, finalement. Alors, du coup, comment faire mieux ? C'est-à-dire, comment faire en sorte d'avoir un réseau à peu près homogène dans toute la maison ? Il faut changer de topologie. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une topologie avec un seul point d'accès, vous avez plusieurs points d'accès qui se mélangent, en quelque sorte, qui se relaient, et que vous sélectionnez automatiquement en fonction de leur puissance. Et ça commence à arriver dans les maisons. Alors, ça commence à arriver de manière un petit peu confidentielle, parce que ça reste quand même relativement cher. Il y avait déjà... Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, d'ailleurs, cette part que je suis en train de raconter.
Mais non, bon, je t'écoute. Enfin, moi, j'en étais au techno des répéteurs, en fait. Enfin, donc,
ça ressemble beaucoup à un répéteur Wi-Fi, tu vois. Mais finalement, c'est beaucoup plus seamless, quoi. C'est beaucoup plus facile. Donc, il y avait eu le Aereo, qui était quand même $200, le truc. Et là, maintenant, il y a le Plume. Alors, le Plume, il est assez sympa. Alors, qu'est-ce que c'est le Pluma? C'est une espèce de petite de plug. C'est un truc que vous mettez dans la prise comme ça, qui ressemble beaucoup à un répéteur Wi-Fi en fait. Hein, c'est assez joli d'ailleurs quelque part. Bon, c'est une espèce de petit machin géométrique. Vous le branchez à la prise et ça vous crée un réseau Wi-Fi. Et le truc, c'est qu'évidemment, il faut la seule nécessité, c'est de brancher un des plumes à votre box Internet, ou en tout cas à ce qui vous sert d'accès à Internet. Et donc là, ce plume-là va créer un réseau Wi-Fi sur lequel vous pouvez vous connecter à Internet. Et tous les autres plumes, dans chaque pièce de la maison, va étendre ce réseau Wi-Fi, et le même. Donc chaque fois que vous branchez une plume, vous étendez naturellement la portée de votre réseau Wi-Fi. Et vous pourrez en mettre autant que vous voulez, et vous pouvez vous connecter de manière complètement transparente à chacun, à celui qui est le meilleur. Et chacun, en fait, relaie les données au plume le plus proche, jusqu'à trouver le plume qui est lui-même connecté à Internet. Donc c'est une topologie de pair à pair, en maille, c'est ce qu'on appelle un maillage. Et bon, à mon avis, c'est quand même assez sympa parce que ça peut être vraiment beaucoup plus pratique si vous avez une maison à deux étages avec plein de pièces. Je pense que pour avoir du Wi-Fi partout, c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir ce type de système. Donc c'est un truc qui, à mon avis, a pas mal d'avenir et je suppose que voilà, dans 4-5 ans, peut-être que ce sera toujours tout, ce sera pour tous comme ça, quoi.
D'accord. Et si j'ai ma tablette, alors par exemple, je regarde un film, une vidéo en streaming et donc... Je veux pas rater l'épisode et donc j'ai envie d'aller aux toilettes. Je traverse toute la maison avec ma tablette. Je vais regarder aux toilettes la suite et je reviens dans mon canapé. Donc en fait, j'ai switché de plume en plume. Alors ça se fait transparent de manière transparente.
Totalement transparente. Ouais. Si t'as une plume dans tes chiottes, tu te connecteras automatiquement aux plumes de tes chiottes, qui lui-même se connectera aux plumes de ton couloir, qui elle-même se connectera aux plumes de ta cuisine, qui lui-même se connectera aux plumes de ton salon.
Ah. C'est des coups à finir avec des plumes à des endroits qu'on ne voit que dans les toilettes.
Tu mets des plumes où tu veux.
très bien.
J'ai pas dit le prix, ça reste un petit peu cher quand même.
Oui.
Mais c'est moins cher qu'avant, c'est pour ça que je voulais parler de plumes, parce que c'est $50 le plume.
Ah oui, d'accord.
Voilà, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'avant. Enfin, moi, les trucs que je connaissais, c'était plutôt $200 le module, quand même.
Oui, le répéteur, oui, mais enfin, c'est vrai que c'est aussi ça a dû baisser, mais c'est quand même. Moi, je m'étais posé la question récemment, mais en fait, j'ai trouvé une autre solution, mais effectivement, on ne peut plus vivre sans le Wi-Fi quand on est un peu tech et donc on supporte plus de pas l'avoir, on supporte plume de pas l'avoir partout dans la maison et c'est vrai.
Parfait.
Ah mince. Ça s'est vu. Ok. Et pour terminer les actus, c'est des actus mais c'est un petit peu long. Enfin, ceci étant, c'est hyper intéressant. Tu voulais nous parler d'un dernier point qui concerne des toutes petites caméras.
Oui, toutes petites caméras. Ben oui, alors c'est un petit peu pour faire le lien avec le focus qu'on fera après. Effectivement, j'ai vu passer un truc assez intéressant où des mecs de l'université de Stuttgart, je crois. Ça c'est du journalisme, mon pauvre. Enfin bon, c'est en Allemagne,
voilà.
En tout cas, c'est en Allemagne. C'est des chercheurs qui ont réussi à faire de l'impression 3D avec des lentilles, enfin, qui ont réussi à faire des lentilles en impression 3D.
D'accord.
Donc voilà, on connaît le principe de l'impression 3D.
Les lentilles pour les
lentilles optiques, tout à fait, lentilles optiques. Donc ils sont capables effectivement de graver des lentilles par impression 3D. Ce qui est très intéressant, c'est que ces lentilles-là, elles sont extrêmement petites. Et, alors par exemple, le diamètre de celle que j'ai devant les yeux là, c'est 125 micromètres.
Ah, okay.
Donc c'est-à-dire environ un dixième de millimètre.
Alors mais c'est d'épaisseur ou de...
Le diamètre.
De diamètre, mais on a la pupille plus grosse que ça.
Pardon ?
On a la pupille plus grosse que ça.
125 micromètres ?
Oui. Non, je sais pas.
125 micromètres, c'est un dixième de millimètre à peu près.
Oui. Non, mais c'est pour les yeux ou c'est pour...
Non, c'est pas pour te mettre sur les yeux.
Voilà.
C'est plutôt pour te mettre.
Parler de lentilles et tout de suite j'ai connecté sur les. Mais oui,
c'est plutôt pour te mettre
appareil photographique par exemple.
Non, mais je rigole qu'à moitié parce que le but de ce truc-là, c'est de fabriquer des lentilles microscopiques qui peuvent aller sur des caméras microscopiques. Et ces caméras microscopiques, on peut les monter sur des toutes petites, toutes fines fibres optiques. Et ces fibres optiques, on peut les injecter dans le corps pour aller faire des endoscopies, mais en faisant des tout petits trous. Parce que c'est vrai, quand on fait une endoscopie, il faut quand même faire passer la caméra. Au plus la caméra optique, au mieux c'est. Du coup, si on fait passer une caméra qui est plus fine qu'un cheveu, bah, ça fait que c'est quand même un peu moins, voilà, un petit peu moins traumatisant. Et donc, c'est la première utilisation de ce truc-là. Donc, les mecs sont capables de fabriquer des lentilles de forme complètement arbitraire, symétrique, pas symétrique, ronde, pas ronde, comme tu veux, et d'en faire des dispositifs optiques fonctionnels qui peuvent ensuite mettre par-dessus des capteurs pour faire de véritables petites caméras. Pour l'instant, les caméras ne sont pas autonomes, c'est pour ça que je dis qu'elles sont plantées sur des fibres optiques, en fait, hein, tout simplement. Mais à terme, on peut utiliser ce type de technologie pour fabriquer des caméras, des modules de caméras qui soient virtuellement visibles à l'œil nu.
Ah ouais, mais c'est incroyable. Mais comment alors, autant, bon, je comprends, avoir une lentille, on permet de former une image toute petite, mais cette image, il faut la transmettre.
Là, elle est transmise par la fibre.
Par la fibre, hein, voilà, qui est en.
Oui, là, ils utilisent donc un laser qui grave dans un polymère transparent une forme. Cette forme est utilisée comme lentille, et la gravure au laser se fait de manière tellement précise qu'on peut faire des lentilles microscopiques. Et pourtant, fonctionne.
Ça, c'est vraiment merveilleux. Les applications médicales, c'est incroyable.
Donc, t'imagines, on pourra peut-être bientôt avoir des micro-caméras implantées à peu près partout. Par exemple, sur les voitures, on pourrait imaginer de mettre des micro-caméras dans la carrosserie qui soient complètement invisibles et qui puissent, par exemple, couvrir la voiture pour avoir une vision à 360 degrés. On pourrait mettre des caméras sur les chaussures, par exemple, pour pouvoir voir sous les... Non, j'ai rien dit.
Ah, voilà, c'est... Moi, je pensais que c'était pour éviter de rentrer dans les. De piétiner les gens dans le métro, mais en fait, toi, t'as d'autres.
Non, c'est pas c'est pour ça. Non, oubliez ce que j'ai dit. Mais sans rire, d'ailleurs, ça pose un énorme problème. On avait parlé des.
Hurler.
Privé que ça représentait les lunettes connectées. Là, je te dis pas, si tu as des caméras ou en tout cas des capteurs comme ça qui sont invisibles à l'œil nu, mais c'est une catastrophe, en fait. Hein.
Oui. Bon, après, il faut des dispositifs d'enregistrement adéquats, parce que si on a ça en fait des bandes vidéo à visionner, hein.
Tu sais, une micro caméra ça consomme à mon avis très peu d'énergie, donc ça peut avoir une toute petite batterie, donc je pense que si on a vraiment envie de faire des dispositifs minuscules, on va parler d'ailleurs de le focus, on va parler de MEMS justement, c'est-à-dire de micro electromechanical device, ça veut dire MEMS, et les MEMS en fait il y en a partout. D'ailleurs, on ne le sait peut-être pas, mais des MEMS, il y en a absolument partout, en particulier dans les téléphones mobiles, parce que pratiquement tous les capteurs sont à base de MEMS. Et ces MEMS, ce sont des petits dispositifs mécaniques, donc hein, c'est ça que ça veut dire, ce sont des micro-dispositifs électromécaniques, donc dont l'ordre de grandeur, c'est à peu près le micron. Et si on commence à faire des caméras qui sont elles aussi de cet ordre de grandeur-là, on peut faire, à mon avis, très vite des micro-dispositifs comme ça, qui sont complètement autonomes et qui peuvent, par exemple, envoyer via un signal radio, hein, les données à d'autres trucs, à d'autres unités, et on peut avoir des systèmes de surveillance qui sont assez extraordinaires. Voilà, donc, ça fait partie des innovations qui sont très intéressantes et qui peuvent appeler aussi certaines des questions.
Et comme indiqué dans les notes de l'émission, cette première partie peut dire la partie actuelle de la communauté de vos amis en public. Et nous allons